sur vous.
Venez, on va se partager. Comme les gens qui mangent autour d'un plat se partagent ce plat en tartines. Et les compagnons du prophète alayhi salam qui étaient là, ils étaient surpris, ils étaient en très bonne position ce jour-là. Ils ont dit au prophète, qu'est-ce qui se passe? Nous ne sommes pas nombreux, les musulmans ne seront pas nombreux ce jour-là. Il a dit non, ils seront très nombreux, mais ils n'ont pas de poids. Ils ressemblent à la mousse que les torrents balayent devant, qu'un torrent qui coule balaye devant lui. N'est-ce pas? C'est ça, c'est la comparaison. Et il demande encore au prophète, alayhi salam, c'est dû à quoi? Pourquoi ils sont faibles alors qu'ils sont nombreux? Le prophète a dit deux choses, et c'est ça qui nous intéresse dans cette réponse-là. L'amour du monde d'ici-bas et la crainte de la mort. Parce que lorsqu'on craint la mort, on n'a pas la vie, en fait. C'est pas pour rien que l'islam a institué le djihad, fi sabilillah, où il faut combattre, où le leitmotiv du combattant, du mujahid, c'est avoir ce qu'on appelle ihdal husnayayn, l'une des deux bonnes choses. Ou bien la victoire, ou bien le martyr. Les deux sont deux bonnes choses pour le croyant, qu'il souhaite. Il veut avoir la victoire, mais il cherche aussi le martyr, qui est la mort. Mais il sait qu'en fait il ne meurt pas, parce que Dieu a dit que le martyr ne meurt pas. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ بَعْدِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Dieu nous dit ici que le martyr ne meurt pas. Ne pensez pas du tout que ceux qui sont morts dans le chemin de Dieu, c'est-à-dire qui combattent pour que la parole de Dieu soit la plus haute, ne pensez pas du tout, ne faites pas cette erreur de croire qu'ils sont morts. Ils ne sont pas morts. Mais ils sont vivants auprès de leur Seigneur, qui les couvre de sa miséricorde matin et soir. Et le jour des comptes, sans comptabilité, Dieu leur dira, rentrez dans le paradis. Donc le combattant qui est là, qui cherche la mort, qui est à travers le martyr, en recherchant cette mort-là, vous avez la vie. Vous avez donc la victoire et vous allez à vivre dans la dignité. Donc les deux raisons qui ont été évoquées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hubbud dunya, parce que les deux vont de pair. L'amour de l'ici-bas et la crainte de la mort. Parce que si nous recherchons la vie d'ici-bas, les châteaux qu'ils ont construits, ces gens-là dont vous parlez dans la question, ils ont construit des châteaux de marbre. Ils ont construit des gratte-ciel. Ils ont des milliards dans leur compte bancaire. Ils ne veulent pas mourir pour laisser tout cela. Ils ne veulent pas être contrariés par les autres. Donc, ils préfèrent ne pas déranger les autres pour mettre en danger ce qu'ils ont. Or, en réalité, ils sont en train d'hypothéquer la garantie de la vie et même de la possession de ces biens. Nous avons vu des gens. Le problème de l'Irak, quand la guerre a été déclenchée, quand ils ont décidé de l'étrangler, ils ont tout simplement gelé ses comptes, qui sont dans les richesses qu'ils ont amassées, les milliards qu'on a amassés dans les comptes. Ils ont tout simplement gelé ça, l'or, le diamant et tout le reste. Donc, on ne peut pas se réfugier en la personne même qui est prêt à chaque instant à vous donner la mort. Ce n'est pas possible, ce n'est pas une garantie. La garantie, c'est se tenir, c'est défendre son indépendance, sa dignité et être ce que Dieu veut que nous soyons, la meilleure communauté. N'est-ce pas? Bon, c'est un sujet qui est très long.
Pourquoi ouvrir une parenthèse par rapport à ces deux pays-là? S'il vous plaît, concernant le pétrole, nous savons qu'une grande partie des difficultés de ce monde est attachée au pétrole, notamment au coût du pétrole. Or, tous les pays islamiques, les pays islamiques producteurs de pétrole font partie de l'OPEP. OPEP synonyme de quota, de limitation. Alors que Dieu a dit, il a mis des richesses sur la terre pour que les hommes en jouissent.
Ça, c'est évidemment quand cette richesse se trouve dans les mains des croyants, qu'on s'en rendra compte que ça va servir tout le monde. Mais lorsque ça dans les mains de gens qui défendent d'abord leurs intérêts, C'est différent, non. Le fonctionnement des relations internationales aujourd'hui, ce n'est pas comme Dieu le veut. C'est-à-dire que ça soit dans les mains des croyants et que ça soit géré. Si vous prenez les livres de Garodi, vous allez comprendre. Lorsqu'il vous dit, par exemple, il cite quelques statistiques, les milliers de tonnes de lait, de fromage, de beurre que l'on déverse dans la mer, dans la brousse chaque année. Ça, c'est l'excédent des productions. En attendant les récoltes ou bien la production de l'année suivante, il faut déverser tout cela pour que cela ne touche pas le prix de la marchandise. N'est-ce pas? Alors, il y a des tas de problèmes. C'est pourquoi les musulmans sont invités à réfléchir, à se ressaisir. Le fonctionnement du monde se fait d'une manière qui met en danger la vie de chaque être humain. Garodi a parlé d'ailleurs du nombre de tonnes de bombes, de l'équivalent de ce qu'on a jeté sur Hiroshima et Nagasaki, qui se trouve sur la tête de chaque être humain. Parce qu'il a pris la quantité, les milliards ou les millions et les millions de tonnes de bombes, c'est-à-dire d'armes nucléaires, il l'a divisé par la population du monde, il a trouvé que sur la tête de chaque être humain, il y a un épouvantail de tel nombre de kilogrammes de bombes nucléaires. Le monde n'a jamais été aussi mal géré qu'avec le leadership de ces gens-là. C'est pourquoi il faut travailler pour que la parole de Dieu soit la plus haute.
Voilà, une autre question, il se demande, est-ce que le militaire peut être imam?
Pourquoi pas? Un militaire peut bel et bien être un imam. Et pour c'est un être humain, non? On peut être musulman et être militaire. Même chez les non-musulmans, même chez dans les pays non-musulmans, vous avez vu la cérémonie d'investiture du chapelain musulman ou de l'imam musulman de l'armée américaine. Je ne sais pas si vous avez suivi cet événement. Même chez eux, on a choisi un imam pour les musulmans qui sont dans l'armée américaine à plus forte raison chez nous, où nous sommes musulmans. Les militaires de nos pays doivent chercher à comprendre l'islam, à voir comment les moujahidines, les combattants autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelle a été leur motivation pour transformer nos armées en armées musulmanes. Pour que l'on sache que lorsqu'on est en conflit, par exemple, on ne doit pas tuer pour tuer, mais on doit tuer seulement dans le chemin de Dieu. Ceux qui vous combattent, ceux qui combattent la voie de Dieu, ou ceux qui agressent les musulmans, qu'on les combatte jusqu'à mettre fin à cette agression. Qu'en état de guerre, l'islam interdit de tuer les gens qui ne portent pas les armes, l'islam interdit de tuer les femmes, les enfants, les vieillards, les religieux, l'islam interdit de couper les arbres fruitiers, etc. Les militaires musulmans doivent comprendre la position de l'islam vis-à-vis de tout cela. Donc c'est très important, un militaire musulman peut bien être imam, s'il comprend, s'il remplit les conditions de l'imamat.
Voilà, nous avons encore deux questions, parce qu'il reste l'heure. Avez-vous des informations précises par rapport au problème du Nigeria, l'exemple de Zamfara?
Bon, cette bonne nouvelle nous est parvenue, on n'a pas de détails là-dessus, mais ce qui est sûr, c'est qu'un travail a été fait en amont par des gens qui sont motivés, qui craignent Dieu, qui ont été préparés, qui ont été formés. C'est la raison pour laquelle nous invitons nos jeunes et nos intellectuels également à faire ce même travail. Pour qu'un jour, au-delà, nous puissions dépasser le stade du simple serment, pour arriver au fait, à l'application de l'islam dans notre communauté, pour que nous puissions véritablement nous reposer, pour que nous puissions nous mettre à l'abri de tous les maux qui nous assaillent, de ces péchés dans lesquels nous vivons, que nous côtoyons tous les jours, ces débits de boissons, la vente de l'alcool, la drogue, la toxicomanie, et tenez-vous bien que Dieu nous protège de la prostitution. Vous avez certainement entendu l'information, il y a quelques jours, dans les radios, comme quoi, après que on est décrété à Zamfara State du Nigeria la charia, et que des États comme Sokoto, comme Kano, comme Katsina par exemple, ont décidé également de programmer l'application de la charia, les prostituées qui, pour la plupart, étaient des non-musulmans qui vivaient dans ces zones-là, pour infester les régions musulmanes, ont décidé de quitter ces zones-là pour se diriger vers le Niger. Et en une seule journée, plus d'une centaine de prostituées ont traversé la frontière du Niger. Combien ?
104
prostituées. Ça, c'est extrêmement grave. Pour venir infester nos sociétés, nos communautés. Donc, il est grand temps que nous nous ressaisissions. La situation est très, très grave. Il faut que nous nous organisions, que surtout les jeunes, parmi les femmes et les hommes, les intellectuels, les décideurs, les sages de la communauté se ressaisissent pour que nous puissions endiguer tous ces maux-là, pour que nous puissions purifier notre communauté et notre société de tous ces maux, et que nous soyons en bon terme avec Dieu. Dieu qui veut nous purifier. Il nous l'a dit dans le Coran, « Yuridullahu li yutahhirakum wa yahdiyakum sunan alladhina min qablikum wa yatuba alaykum » Dieu veut vous purifier et vous guider sur la voie des pieux et des saints qui vous ont précédés, et accepter votre repentance. Il n'y doit pas avoir de place dans une communauté musulmane pour tout ce que je viens de citer, ces mots-là qui minent notre société et qui ciblent nos jeunes, nos femmes, nos filles, etc. Que Dieu nous préserve.
Voilà. Voilà. Donc, il y a une sœur ici qui écrit. Dans un de vos prêches de la semaine dernière à la télévision nationale, vous avez dit que la femme peut étudier jusqu'au doctorat, mais elle doit mettre ce doctorat à la disposition de sa famille. Je voudrais des explications ou des éclaircissements à ce sujet.
Les explications que l'on peut donner à ce sujet est que d'abord, la recherche du savoir est une obligation en islam pour le musulman et pour la musulmane. C'est une obligation religieuse. Ce n'est pas facultatif en islam de rechercher le savoir, c'est une obligation. Pour rejoindre ce que le frère a dit, l'islam est venu mettre en place un projet de société, construire une civilisation qui a pour point de départ la science, le savoir, dans toutes ses formes. Parce qu'en islam, le savoir n'est pas seulement le savoir religieux pur. La maîtrise de la médecine, de l'architecture, de l'espace, de l'astronomie, etc., tout cela constitue des sciences que nous devons obligatoirement chercher et qui constituent des obligations religieuses. Alors, la femme en islam a un rôle extrêmement important à jouer dans la construction, l'édification de la civilisation de l'islam. Parce que la femme a le rôle grave d'éduquer, de former les générations montantes. C'est pourquoi elle doit étudier. On ne peut pas éduquer lorsqu'on est ignorant. C'est la raison pour laquelle la femme musulmane est invitée à rechercher le savoir. Et ce savoir-là, je l'ai dit, en règle générale, en islam, ça se met au service du foyer, de la famille, de la cellule, de cette première cellule de la communauté, dont l'ensemble de la communauté est composé. Pour donc équilibrer, pour mettre en place un foyer, une famille exemplaire, une famille croyante, une famille du Coran, une famille coranique. Que Dieu nous aide, Dieu nous donne la force, la puissance et les moyens de construire islamiquement et coraniquement nos familles. Ya Rabbana Ya Allah. Que Dieu préserve nos enfants, nos femmes, nos épouses, nos filles, des griffes du démon, des pièges du démon, pour que nous puissions construire la communauté de l'islam dont Dieu parle, la meilleure des communautés. En règle générale donc, la femme doit mettre sa connaissance au service du foyer, pour assurer l'équilibre du foyer, l'équilibre du mari, des enfants, et bref, de la communauté. C'est de cela que je parle. Mais en règle d'exception, elle peut sortir pour aller construire, édifier la communauté dans des domaines qui répondent, n'est-ce pas, aux exigences de son statut de femme musulmane. Je dis bien les domaines qui correspondent à son statut de femme musulmane. Et nous pouvons illustrer ça par un simple exemple. Une femme musulmane ne doit pas occuper un poste de secrétaire, parce que ça, c'est le propre des communautés occidentales. C'est une coutume, c'est une habitude occidentale. Une femme musulmane qui est secrétaire d'un monsieur, qui prend les dossiers, qui rentre dans son bureau, qui s'enferme avec son patron, l'islam l'interdit. Parce que l'ère troisième, c'est Shaitan. C'est le prophète qui l'a dit, alayhi salatu wa salam. La yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa wa ma'aha dhu mahramin. Il est interdit à une femme de s'isoler avec un autre homme, c'est-à-dire un homme qui n'est pas son zou mahram, c'est-à-dire un homme qui peut la marier. Sauf si c'est en présence d'un zou mahram, c'est-à-dire d'un homme qui ne peut pas la marier ou bien de son mari. Or, le travail de secrétaire, nous savons donc les conséquences que ça crée, même chez les pays ou dans les pays où ça s'applique. Les scandales de tout genre qui sont enregistrés. Ça, c'est juste un exemple. Il y a bien d'autres fonctions, n'est-ce pas, qui sont aussi dangereuses, n'est-ce pas, que le travail de secrétaire. Il y a des domaines, beaucoup d'autres domaines où la femme peut travailler quand elle décide, quand elle se trouve obligée de sortir pour aller travailler. Il y a par exemple le travail de formatrice, d'enseignante par exemple, mais dans une école où elle doit former soit des enfants qui n'ont pas l'âge de la puberté, qui sont garçons ou filles, ou bien dans une école de filles qui ont atteint l'âge de la majorité. N'est-ce pas? Ou bien la médecine, elle peut être sage-femme, elle peut être pédiatre, elle peut être gynécologue, etc. Donc des domaines qui correspondent aux exigences de sa qualité de femme musulmane. Il est important pour nous de le comprendre. Si ça n'existe pas dans notre société, qui évidemment dans plusieurs domaines, dans pas mal de domaines, on n'applique pas les règles de l'islam, comme le domaine que je viens d'expliquer, nous sommes des musulmans à 99% au Niger, mais des gens viennent nous ouvrir des bars pour nous vendre l'alcool. Pour vendre l'alcool à des hauts musulmans. N'est-ce pas? Et tous les autres problèmes que nous avons. Si cela n'existe pas, organisons-nous pour créer tout cela, pour organiser notre communauté dans ce sens-là. Pour qu'on assigne à l'homme les tâches qui lui reviennent et à la femme les tâches qui lui reviennent, pour que nous puissions donc affirmer ce rôle de complémentarité et non d'égalité qu'on est en train de rechercher à tue-tête, le rôle de complémentarité entre la femme musulmane et l'homme musulman dans le cadre de la communauté des croyants et des croyantes, la communauté musulmane.
Voilà. La réflexion aussi, il y a des fonctionnaires qui, dès qu'ils touchent leur salaire, on constate qu'il y a des gens qui viennent leur rendre visite à cette occasion, seulement pour avoir quelque chose. Quel appel pourriez-vous faire à ces mendiants et à ces fonctionnaires qui aident ces gens, les hommes, sans pour autant satisfaire sa famille?
Ça, c'est...
Ailleurs,
si les gens qui viennent,
ailleurs, si les... la famille.
Bon, évidemment la famille est prioritaire. Si c'est l'aumône, même si c'est pour faire, si c'est un acte de bienfaisance, ça doit commencer par les parents les plus proches, notamment l'épouse et les enfants. N'est-ce pas? C'est eux qui sont prioritaires. Le prophète a dit, alayhi salatu wa salam, le meilleur acte de bienfaisance que l'on puisse faire, c'est ce qu'on fait d'abord vis-à-vis des proches parents. Parce que lorsque vous aidez le proche parent par cet acte de bienfaisance, non seulement vous avez fait un bien, mais vous avez contribué également à renforcer le lien de parenté. Donc vous avez fait une double action qui a donc une double récompense. Mais cela n'empêche que si c'est des gens qui sont démunis, vous approchent, il faut essayer de partager avec vous un tant soit peu, de leur faire un geste par rapport à ce que Dieu vous a donné. Parce qu'en se faisant, Inch'Allah, vous ne serez pas appauvri, Dieu aussi vous aidera.